série sur les tentations de David. Et depuis quelques semaines, nous regardons ces épisodes dans le but de déraciner la tentation et le péché de notre propre vie afin de nous enraciner en Christ. Récemment, nous avons vu quelques thèmes assez difficiles. La vengeance, la colère, la convoitise. Et donc, je me suis dit que cette semaine, ce serait bien d'avoir quelque chose d'encourageant, quelque chose de léger même. Et puis, je me suis rendu compte d'où nous sommes dans l'histoire. Et en fait, nous nous approchons de la fin de la vie de David. Il ne nous reste qu'un message après celui-ci, ce qu'on fera après le culte de baptême et après Pâques. Et en fait, ici, à la fin de la vie de David, les choses s'empirent. Le chaos commence en Israël et il va continuer à augmenter. Après l'adultère et le meurtre commis par David, le chaos va augmenter dans sa maison et dans son royaume. Pendant des siècles et des siècles, en fait. En fait, le chaos va augmenter en Israël jusqu'à ce qu'un autre roi arrive qui va tout changer. C'est le roi dont nous avons chanté. Le roi Jésus, le vrai roi berger du peuple de Dieu. Rappelons-nous donc ce qu'on a dit au début de cette série. La vie de David nous oriente vers Jésus, en partie parce qu'elle met le doigt sur notre propre péché. La colère de David, sa convoitise, sa crainte, je vois ces choses en moi aussi quand je lis ces histoires. Et je sais que Jésus est la seule solution, et pour le pardon, et pour la sanctification. C'est en partie le but de ces histoires. Mais la vie de David nous oriente vers Jésus dans un autre sens aussi, parce que David est à la fois le grand héros d'Israël et tellement imparfait que nous ne pouvons pas éviter d'être déçus en lisant son histoire. Nous ne pouvons pas lire l'histoire de David sans vouloir qu'il ait mieux fait, sans avoir le désir que quelqu'un arrive pour le faire correctement, comme Jésus le fera. Et aujourd'hui, nous allons être, je vous avertis, nous allons être déçus par David. Peut-être pas plus que la semaine dernière, avec l'histoire de Bathsheba, mais pour certains, peut-être que si, quand même. Cette histoire que nous allons lire est choquante et violente. Et pour certains, elle pourrait même être traumatisante à écouter. Et même si ce n'est pas David qui commet la violence, il n'en est pas innocent. Au contraire, ce récit est un énorme échec pour David. En tant que roi et en tant que père. Lisons alors 2 Samuel 13, verset 1, à partir de verset 1. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Or, Amnon, le fils de David, tomba amoureux d'elle. Alors, Amnon était le premier fils de David. Absalom et Tamar étaient les enfants d'une autre femme. Donc, vous voyez la situation. Amnon était le demi-frère de Tamar. Verset 2. Amnon était anxieux jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur Tamar. En effet, elle était vierge et il lui paraissait difficile de faire la moindre tentative auprès d'elle. Amnon avait un ami du nom de Jonadab. C'était un fils de Shimea, le frère de David, et un homme très rusé. Il lui demanda, pourquoi deviens-tu donc chaque matin plus abattu, toi qui es un fils de roi? Là, vous voyez cette attitude de se dire, je suis quelqu'un d'important, donc je vais baser mes décisions sur ce fait. Toi qui es un fils de roi, ne veux-tu pas me dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à ma sœur Tamar de venir me donner à manger, qu'elle prépare un plat sous mes yeux afin que je le voie et qu'elle me serve elle-même à manger. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon lui dit, que ma sœur Tamar vienne donc faire deux gâteaux sous mes yeux et qu'elle me les serve elle-même. David fit dire à Tamar dans ses appartements, va donc chez ton frère Amnon et prépare-lui un plat. Tamar alla chez son frère Amnon qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara des gâteaux devant lui et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle et les déposa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il ordonna de faire sortir tout le monde et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le plat dans la chambre et sers-moi. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il l'attrapa et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas de cette manière en Israël. Ne commets pas cet acte odieux. Où irai-je, moi, traîner ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des plus ignobles en Israël. Maintenant, parle donc au roi, et il ne m'empêchera pas d'être à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se montra plus fort qu'elle, et il la viola. Il coucha avec elle. Puis Amnon éprouva de la haine envers elle, une haine plus forte encore que ne l'avait été son amour. Et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit, « Non, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il refusa de l'écouter. Appelant le garçon qui était à son service, il dit, « Qu'on fasse partir cette femme de chez moi, qu'on la mette dehors, et ferme la porte derrière elle. » Elle portait une robe de plusieurs couleurs. C'était en effet la tenue que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la fit sortir et ferma la porte derrière elle. Tamar déversa de la cendre sur sa tête et déchira sa robe multicolore. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Son frère Absalom lui dit, « Est-ce que ton frère Amnon a couché avec toi? Maintenant, ma sœur, garde le silence, car c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar s'installa, accablée, chez son frère Absalom. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé, et il en fut très irrité. On va s'arrêter là, pour le moment. C'est choquant. C'est difficile de lire. David en fut très irrité, probablement dans le sens de furieux. Elle dit, donc, si on s'arrête là, on peut imaginer plusieurs possibilités pour la suite. Si on ne connaît pas la suite de l'histoire, on peut imaginer un homme comme David qui a presque tué Nabal parce que celui-ci ne voulait pas lui donner à manger. Ce David pourrait perdre la tête ici et tuer Amnon avec ses propres mains. On peut l'imaginer. Ou David pourrait élaborer un plan compliqué comme il a fait pour tuer Uri. Et peut-être que cette fois-ci, ce sera un plan pour rendre justice au lieu d'un meurtre. Ou encore, on peut imaginer un homme comme David qui a compris son propre péché quand Nathan le lui a montré. Peut-être que ce David va aller à son fils et lui montrer le mal qu'il a fait, pour que son fils puisse demander pardon, comme David l'avait fait. Il y a plein de choses que David pourrait faire dans cette situation, certaines mieux que d'autres. Il y a plein de choses qu'il peut faire. Si vous ne connaissez pas la suite de l'histoire, je vous demande, qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce qu'il va faire? On va lire verset 22. D'abord, c'est la réaction d'Absalom.
Quant à Absalom, il ne parla ni en bien ni en mal à Amnon, mais il éprouva de la haine pour lui parce qu'il avait déshonoré sa sœur Tamar. À la différence de David, donc, Absalom ne montre pas sa colère, mais il a de la haine dans son cœur. Puis, verset 23 commence. Tout simplement, 2 ans après. 2 ans après. Vous en rendez compte? C'est-à-dire, tout d'un coup, nous avons sauté 2 ans en avant, et pendant ce temps, David n'a fait rien. Pendant 2 ans, Absalom éprouve de la haine pour Amnon qui a violé sa sœur, et David est très irrité, où il était au début en tout cas, mais personne ne fait rien. Jusqu'à ce qu'enfin, au verset 23, Absalom mette en action son plan motivé par la haine. Nous n'allons pas lire tout le récit, mais en gros, Absalom invite tout le monde, tous ses frères et leurs familles, chez lui pour une grande fête. David ne veut pas y aller, mais il donne la permission pour que Amnon y aille. Et comme tout le monde peut bien deviner, sauf David apparemment, Absalom prend l'occasion pour tuer Amnon. Puis, au verset 37, « Puisque cette vengeance n'était pas légale, nous lisons, Absalom s'était enfui. » Et il alla chez Talmaï, fils d'Amir, roi de Geshur. Et David pleurait tous les jours son fils. Absalom resta 3 ans à Geshur, où il était allé après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. Encore 3 ans passent avant la fin du chapitre. Ça fait 5 ans maintenant. 5 ans depuis que sa maison commence à se déchirer. Et toujours, David ne fait rien. Oui, il est possible que pendant ce temps-là, David a poursuivi Absalom un peu. Mais même ça, c'est pas sûr. Il paraît en fait que David n'a pas fait grand-chose pendant ces 3 ans, jusqu'à ce qu'il décide qu'il s'en fiche. Voici donc une histoire très sordide et dans un sens un peu ambigu au premier abord. Non pas ambigu concernant le viol, soyons clairs. Cet acte par Amnon est condamné clairement dans la loi de Moïse, dans plusieurs sens, et il est aussi condamné par la façon dont il est raconté ici. La cruauté d'Amnon est présentée de façon très brutale, par ce qu'il dit à la fin et par la panique de Tamar avant le viol et par sa dévastation après. Le texte ne nous laisse pas croire que ce n'était pas un problème. Au contraire, il n'y a rien d'ambigu dans cet aspect de l'histoire. C'est une abomination aux yeux de Dieu. D'où notre surprise lorsque David ne fait rien. Ce qui n'est pas ambigu non plus, c'est l'image de David dans ce passage. Comme un roi et un père faible et passif, même apathique. C'est l'apathie qui est le problème, qui est la tentation de David dans ce passage. Dans cette histoire, David ne fait rien sauf se laisser devenir un pion dans les plans méchants des autres. Peut-être sans le savoir, mais peut-être pas. 2 fois, c'est par David qu'une personne est envoyée à sa destruction. Vous voyez dans ce passage, il y a 2 fois où David envoie une personne à sa destruction. D'abord Tamar et puis Amnon. À chaque fois, David donne au coupable la permission d'accomplir son plan. Et à chaque fois, on peut bien imaginer que David aurait pu deviner ce qui allait se passer. David n'était pas stupide. Sûrement, il connaissait son fils Amnon suffisamment pour savoir que cette demande étrange, que Tamar vienne chez lui, allait mal finir. Et clairement, il soupçonne qu'Absalom va faire du mal à Amnon. C'est clair dans le texte. David soupçonne ce qui va arriver. Et pourtant, David le permet. Et il en est l'outil, en plus. Donc, par ces détails, nous voyons que David est maintenant manipulé dans ce chapitre de la même façon qu'il avait manipulé les autres dans le dernier chapitre. Le mal est comme ça, n'est-ce pas? On commence en pensant qu'on peut le contrôler, mais très vite, c'est le mal qui nous contrôle. C'est ce que nous voyons chez David. Le texte est donc clair. Le mal est entré dans la maison de David et David ne fait rien pour y résister ni pour y répondre. Cela n'est pas ambigu. Alors, ce qui peut sembler ambigu, par contre, c'est ce que David aurait dû faire. À votre avis, qu'est-ce que David aurait dû faire? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire après le viol de Tamar? Il y a deux possibilités principales, à part simplement péter un câble, comme je l'ai déjà dit. Les deux grandes possibilités seraient soit de punir Amnon selon la loi, soit de le pardonner. David aurait pu poursuivre soit la justice, soit le pardon dans cette situation. Et on peut avoir peut-être l'impression que c'est ce dernier qu'il fait. On peut s'imaginer que David veut pardonner Amnon et que c'est pour ça qu'il ne fait rien. Le problème, c'est que ce n'est pas comme ça que fonctionne le pardon. Vous comprenez? Quand on pardonne quelqu'un, ce n'est pas simplement qu'on ne fait rien. Au contraire, le pardon est un acte proactif. Au psaume 103, verset 12, on lit que Dieu efface nos transgressions. Quand le psaume parle du pardon, il nous dit que Dieu éloigne de nous nos péchés. Le pardon n'est pas de simplement laisser tomber. C'est une décision, c'est quelque chose qu'on fait. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout seul quand on ne fait rien. Laisser tomber, ce n'est pas pardonner. Et dans le cas du roi, ce pardon aurait impliqué une proclamation de sa décision. Si David allait pardonner Amnon, l'héritier du trône, il devait le faire publiquement. Ce serait peut-être pas le cas pour nous. On n'est pas obligé de prononcer notre pardon publiquement à chaque fois. Mais quand même, le pardon devrait être quelque chose que nous vivons de façon concrète. Et visiblement, David ne le fait pas. De même, de l'autre côté, si le roi ne va pas pardonner quelqu'un, en tant que roi, il doit alors prononcer son jugement. Et ça aussi publiquement. On peut imaginer que les deux, soit le pardon, soit le jugement, auraient été des réponses légitimes dans cette situation pour David. Ce qui n'est pas légitime dans cette situation, par contre, c'est de faire rien. D'autant plus parce qu'en ne faisant rien, David ne fait rien pour la victime non plus. C'est surprenant, n'est-ce pas, quand on lit cette histoire et à aucun moment, David ne va-t-il vers Tamar. Qu'il veuille pardonner Amnon ou pas, David aurait pu aider Tamar en exigeant, par exemple, qu'Amnon paie des réparations à Tamar selon la loi de Moïse, en Exode 22, par exemple. Amnon était maintenant obligé, par la loi, de prendre soin de Tamar. Mais comme nous l'avons vu, pour Amnon, après avoir pris ce qu'il voulait, Tamar n'est plus une personne à ses yeux. Elle est juste cette femme. Et il la renvoie. Et son père et son roi ne fait rien. C'est très difficile quand le père, le roi, qui devrait faire quelque chose, ne fait rien. N'oublions non plus qu'Amnon n'a pas demandé pardon. Ce qui veut dire que la première chose que David aurait dû faire était d'aider Amnon à voir son péché et
à l'appeler à la repentance. David aurait dû être un Nathan ou une Abigaël dans la vie de son fils. Nous avons déjà deux exemples dans la vie de David de quelqu'un qui vient pour parler, pour prononcer la vérité à quelqu'un par rapport à leur péché. David aurait pu faire ça, mais il ne fait pas. Et donc, David ne poursuit ni la délivrance spirituelle de son fils, ni la justice pour sa fille. Et la question pour nous, alors, c'est pourquoi? C'est important de poser la question pourquoi, si nous allons bien répondre à ce genre de tentation dans notre vie, quand nous sommes tentés de faire rien. Pourquoi David ne fait-il rien? C'est possible que David n'ose rien faire parce qu'il se dit « Moi aussi, j'ai fait des choses horribles. Qui suis-je pour confronter mon fils avec son péché ?» Et ça peut sembler être très bienveillant de la part de David, n'est-ce pas? Mais en fait, ça n'aide pas du tout Amnon de le laisser comme ça dans son péché. C'est très possible d'ailleurs que David ne veuille pas parler du péché d'Amnon parce que ça lui rappelle son propre péché. C'est naturel. Moi, je ne veux pas parler de votre péché parce que ça me fait penser à mon péché, ce que je préfère ignorer. Je ne veux pas parler aux autres de mon péché si j'ai toujours honte de mes péchés. Je ne veux pas y penser, sauf si je saisis vraiment le pardon que Dieu m'offre. Parce que dans ce cas-là, je suis libéré de ma honte. Et je peux faire face à mon péché et au vôtre sans être paralysé. Sans être paralysé par la honte. David ne semble pas, dans ce passage, il ne semble pas vivre le pardon que Dieu lui a offert. Il semble être paralysé par sa honte. D'autant plus parce qu'il doit reconnaître dans le péché d'Amnon ses propres échecs en tant que père. Et il y voit le jugement qu'il a tiré lui-même sur sa famille. Parce que c'est vrai, selon chapitre 12, le péché de David est l'une des sources du mal qui déchire sa famille au chapitre 13. Même si Amnon reste responsable pour ses propres actes, bien sûr, comme nous tous. Selon chapitre 12, David a tiré le jugement sur sa famille par son péché avec Bathsheba. Et maintenant, il est paralysé face à ce jugement. C'est une histoire qui nous touche. Parce que même si nous n'avons pas tous des enfants, nous sommes tous enfants. Et nous avons tous reçu, d'une façon ou autre, un héritage spirituel de la part de nos parents. On revient à ça la semaine prochaine, en fait, pour le prochain message, après Pâques. Mais parlons maintenant un peu de ce jugement qui était annoncé au chapitre 13. Quand Nathan confronte David avec son péché, avec Bathsheba, il lui dit que l'épée ne partira jamais de sa maison. D'abord, notons deux choses par rapport à ce jugement. D'abord, ce jugement n'était pas arbitraire. Ce jugement n'était pas arbitraire dans le sens que c'était la conséquence tout à fait logique du péché de David. Non pas juste de l'acte d'adultère et du meurtre, mais de sa nature et de l'attitude qui a produit ces choses. Amnon et Absalom avaient probablement à peu près 18 ans au moment de l'adultère de David avec Bathsheba. Donc il faut bien voir la situation dans la famille. À l'âge d'à peu près 18 ans, Amnon et Absalom voient tout ça se passe chez leur père. Ce qui veut dire que ces deux fils avaient été exposés, non pas juste à cet événement et à ses répercussions dans la famille. Ils vivaient dans l'environnement qui a permis cette situation de se produire. Est-ce surprenant qu'Amnon imagine qu'il peut prendre l'objet de son désir sexuel, qu'il y ait droit ou pas? Non, ce n'est pas surprenant, parce qu'il a vu son père faire la même chose. et non pas juste en commettant l'adultère. Toute l'attitude de David qui l'a amené à cet acte, ses multiples femmes, par exemple, son attitude que tout lui est permis, ses fils ont vu ça et ils l'ont imité inconsciemment. Est-ce surprenant de voir Absalom élaborer un plan compliqué pour faire tuer son frère? Non, il a vu son père faire pareil avec Uri, son ami. Le jugement de Dieu prononcé par Nathan n'est pas arbitraire, c'est lié au péché de David. C'est une proclamation des conséquences presque tout à fait naturelles de ses péchés, dont l'adultère et le meurtre d'Uri n'étaient que les derniers et les plus visibles. Alors, nous revenons à cette question des conséquences du péché sur nos enfants dans le dernier message de la série, parce que nous allons regarder la relation entre David et Absalom. Mais pour le moment, notons simplement que David partage la responsabilité pour ce mal qui ravage sa famille. C'est un avertissement pour nous tous, faisons attention. Nos enfants nous regardent. Ils voient la façon dont nous agissons face aux défis. Ils voient notre foi et la façon dont nous la mettons en pratique. Et d'une façon ou autre, ils vont nous imiter. C'est une énorme responsabilité, je vous l'assure. Et ça peut être aussi un énorme fardeau. Parce qu'à un certain moment, nous commençons à nous rendre compte des effets que nos faiblesses et nos péchés ont eu sur nos enfants. Et nous pouvons avoir l'impression que les dégâts sont faits et la suite est inévitable. Mais avec Dieu, rien est inévitable. Je me demande, en fait, si ça ne faisait pas partie du problème pour David dans ce chapitre. Il avait entendu le jugement. L'épée ne s'éloignera pas de ta maison, au chapitre 12. Et maintenant, il a l'impression de ne pouvoir rien faire sauf regarder lorsque le jugement tombe et ses péchés commencent à se reproduire chez ses enfants. Mais là, David se trompe, et il se trompe gravement. Le jugement de Dieu n'est jamais un appel à l'inaction. Il n'est jamais une excuse pour l'apathie. Au contraire, le jugement de Dieu est un appel à la repentance et à l'action. Le jugement de Dieu est un appel à la repentance et à l'action. David s'était repenti au chapitre 12, c'est vrai, au moins en partie. Mais ce qui est clair dans ce chapitre, c'est qu'il n'a pas réagi au jugement qui était prononcé contre ses péchés comme il aurait fallu. Il ne se dit pas, d'accord, j'ai tiré tout cela sur ma maison. Et donc, lorsque ça arrive, lorsque les dégâts de mon péché commencent à se manifester dans ma maison, je vais me tenir à la brèche. Je vais le gérer. Je vais faire ce que je peux pour au moins mitiger le mal que j'ai sémé dans la vie de mes enfants. Je vais être proactif face au mal avec l'aide de Dieu. Peut-être, c'est vrai, peut-être que c'est trop tard pour changer certaines choses. Mais c'est jamais trop tard pour agir. À n'importe quel moment, David aurait pu commencer à repousser le mal qui envahissait sa famille et son royaume. Mais David est paralysé. Qu'est-ce qui vous paralyse? David cède au péché du fatalisme, la croyance qu'il ne peut rien changer. Il ne fait rien. Et justement, nous allons voir son royaume tomber dans le chaos. Ça va aller de pire en pire, jusqu'à l'arrivée d'un autre roi dans la lignée de David, le roi Jésus. 1000 ans après ce désastre dans la famille du roi, le roi des rois arrive. À la différence de David face au péché de ses enfants, ce roi ne sera pas paralysé. Ce roi va agir. Dans la personne de Jésus, Dieu vient vers ses enfants. Il fait ce que David ne fait pas. Dieu vient vers les victimes pour les réconforter et pour les guérir. Il vient proclamer la délivrance à toutes les tamars de ce monde, à tous ceux qui ont été détruits par le péché et par l'apathie des autres. Et ce qui est surprenant, c'est que ce roi vient aussi guérir les coupables de ce monde, nous tous, pour nous montrer nos péchés et nous en sauver. Si David était paralysé par sa honte et celle de ses enfants, Jésus n'est pas paralysé par la tienne. Au contraire, Jésus vient vers toi pour l'enlever. Il vient pour la prendre sur lui-même, non pas pour être accablé comme David l'était, mais pour l'effacer. Jésus a pris l'acte de condamnation rédigé contre toi, que tu portes toujours dans ta tête, il a pris et il a cloué à la croix. Et donc, tu n'as pas le droit de le garder dans ta tête, parce qu'il a pris. Et c'est ça la bonne nouvelle de Jésus. C'est le sens de l'Évangile. En mettant notre foi en Jésus, nous sommes libérés des chaînes de notre passé, de ce que nous avons fait et de ce qui nous a été fait. Nous avons une nouvelle naissance. Et en Jésus, nous avons un Père et un Roi qui fait pour nous ce que David n'a pas su faire pour ses enfants. En Jésus, nous avons un Dieu qui agit pour nous sauver. Et du coup, nous pouvons agir pour les autres. Vous voyez les conséquences, la cause et les conséquences. Puisque nous sommes nous-mêmes guéris, et puisque nous avons un exemple à suivre, puisque nous sommes pardonnés par Dieu, nous pouvons pardonner les autres. Puisque nous sommes aimés par Dieu, nous pouvons aimer les autres. Puisque nous sommes sauvés par l'œuvre de Jésus, nous pouvons accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées pour nous. Notons bien l'ordre dans tout cela. Si vous ne retenez qu'une seule phrase de ce message, retenez celle-ci. Je n'agis pas pour Dieu pour qu'il me sauve. Je peux agir pour Dieu parce qu'il m'a déjà sauvé. Vous voyez la différence? C'est très, très important. Parce que là, aujourd'hui, je veux vous inciter à l'action. Mais je ne veux pas vous inciter à l'action pour que vous puissiez être sauvé. Je vous incite à l'action parce que vous êtes déjà sauvé. Ça doit venir dans cet ordre-là. Les bonnes œuvres ne produisent pas le salut. Éphésiens 2, versets 8 à 10. C'est la grâce et les œuvres bonnes dans le même passage. On va lire Éphésiens 2, 8 à 10. Éphésiens 2, 8. Marquez cette page dans votre Bible. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jésus nous crée de nouvelles créatures en lui pour que nous puissions accomplir sa mission. Ça ne va pas dans l'autre sens. Je suis Jésus parce qu'il m'a sauvé, non pas pour qu'il me sauve. Et suivre Jésus veut dire agir. Suivre Jésus veut dire accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Qu'est-ce que nous devons faire alors? Nous allons terminer avec ces trois choses. Qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas être comme David dans ce chapitre? D'abord, tout simplement, mettre notre foi en lui. Reconnaître que nous sommes pécheurs et que ce n'est que la mort et la résurrection de Jésus qui enlèvent notre honte et notre culpabilité. Si vous n'avez pas fait ça, c'est là où tout commence. Il faut commencer là. mets ta foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si vous voulez faire, et vous ne savez pas comment, venez voir quelqu'un après le culte, moi-même, Jean-Serge, quelqu'un d'autre, pour qu'on puisse le faire ensemble. Par contre, si vous avez déjà fait ça, maintenant c'est le moment de le vivre. Et ça commence en vivant pleinement notre pardon. Nous devons saisir la réalité que nous sommes 100% acceptés par Dieu, pardonnés et bien-aimés par lui. Parce que c'est dans cette réalité que nous trouvons la force pour agir. Et nous pourrons faire face, faire ce que David n'a pas pu faire. Nous pouvons amener la vérité et la justice et le pardon aux autres, que ce soit dans nos maisons ou ailleurs. David aurait pu amener ces choses à ses enfants, mais il n'a pas fait. Il est resté sous l'emprise de sa honte. Donc aujourd'hui, je vous encourage à vous poser la question, dans quel aspect de votre vie êtes-vous paralysé par votre honte, par votre sentiment de culpabilité, par quoi que ce soit? Et est-ce que vous voulez être libéré de cet état paralysé? Pour ça, il faut pleinement vivre ton pardon en Jésus-Christ. Il faut commencer là. Et puis, finalement, il ne faut pas céder au fatalisme ou à l'apathie. Dans notre foyer, dans nos relations, devant l'injustice et ceux qui souffrent, ne refusons pas d'agir. C'est vrai que nous ne pouvons pas toujours effacer les conséquences du péché, mais nous pouvons toujours décider d'être une vraie lumière dans les ténèbres à partir de maintenant. Et en fait, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Il a déjà préparé des œuvres bonnes pour nous, pour toi, pour que tu les accomplisses aujourd'hui même. En sortant de cette salle, ou même avant que vous sortiez, il y a de bonnes œuvres préparées pour vous déjà. Un mot gentil à quelqu'un, un mot d'encouragement, un moment de prière. Ce n'est pas toujours très impressionnant de voir de l'extérieur, mais quelqu'un qui répond toujours en priant, quand il entend quelqu'un qui souffre, c'est un héros de la foi. C'est l'action. Quand je dis action, parfois l'action, c'est la prière. Mais là, c'est le combat. Ce n'est pas facile. Mais il faut agir. Il ne faut pas céder à la tentation du fatalisme en se disant « ce qui va arriver, va arriver ». Non, la prière change les choses. On l'a vu. On l'a vu dans notre vie. La prière change les choses. Et avec la prière, nous sommes appelés à agir. Parce que nous sommes appelés à avoir un effet sur notre monde, sur les gens qui nous entourent. C'est une tragédie de voir David faire rien dans ce chapitre parce qu'il aurait pu faire tellement de bien. Dieu a déjà préparé des œuvres bonnes pour vous. Il suffit de lui demander, de vous montrer et d'être prêt à répondre quand vous les voyez. Et de répondre par sa force. Parce que sans sa force, nous ne pouvons rien faire. Mais en lui, nous pouvons tout faire.